l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Dans cette première partie de l'EM, nous sommes avec les élèves de l'école Cornec à Quimer. Depuis le début de l'année, les élèves réalisent des interviews de femmes de territoire avec un objectif, découvrir leur parcours et leur quotidien. En tout début d'année, nous avons pu découvrir Katel Alençon, athlète paralympique qui vise les Jeux de Paris 2024, puis Leïla Henry, architecte dans le centre Finistère. Aujourd'hui, les élèves d'Isabelle Leroy découvrent le monde de la recherche avec Alix Levin. Alix est anthropologue à l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. Elle aborde avec les enfants les métiers de la recherche et son sujet de prédilection, les algues vertes. Elle est interviewée par Eva, Alexia, Ilan et Brune.
Bonjour les auditeurs, nous sommes avec une nouvelle invitée dans notre émission. Cette semaine, nous recevons Alix Levin. Elle est chercheuse et s'intéresse aux humains. Elle est anthropologue. Bonjour Alix.
Bonjour à tous.
En quoi consiste votre travail ?
Alors merci pour ta question Alexia. Mon travail, je dirais très simplement qu'il consiste à essayer de faire des enquêtes chez les gens pour essayer de comprendre comment ils vivent, comment ils ressentent les choses et peut-être ce qui va les faire bouger, les faire réagir, les faire changer aussi de point de vue sur les choses. Alors pour faire ça, j'essaye d'habiter à côté des gens avec qui je travaille. De les suivre dans leurs activités quotidiennes, de les enregistrer, de recueillir leurs paroles et puis de comprendre un petit peu de quoi leur vie quotidienne elle est faite.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors j'ai choisi ce métier il y a une quinzaine d'années à peu près et peut-être même que j'ai l'impression de pas tellement l'avoir choisi, j'ai un peu l'impression que c'est le métier qui m'a choisi moi parce qu'au départ j'avais essayé un petit peu ce travail-là mais dans mes études. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à m'en passer parce que ça me permettait de vivre plein de vies en plus de la mienne. Et ça, c'était génial parce que j'étais amenée à aller rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas croisés sinon. Donc mon métier, il m'ouvrait plein de portes vers plein de cultures différentes, plein de métiers différents, plein d'expériences de vie différentes. Et puis on devient vite accro de ça parce que ça fait un quotidien qui est très très riche.
Est-ce que vous aimez la science depuis que vous êtes petite ?
Alors oui, j'aime bien la science depuis que je suis petite. J'aime bien un peu toutes les sciences, mais je dois dire que j'étais un peu moins douée pour tout ce qui impliquait un peu des mathématiques ou des choses comme ça. Et donc, j'aime beaucoup les sciences, mais j'aime aussi beaucoup les histoires, les récits. Et dans mon métier, on utilise beaucoup le récit pour raconter aux gens que ça intéresse ce qu'on a recueilli comme information, comme document, comme histoire sur les terrains sur lesquels on a travaillé. Donc je dirais que j'aimais beaucoup les sciences, mais j'aimais aussi beaucoup les histoires.
Est-ce que vous aimez votre travail ?
J'adore mon travail. Alors j'adore mon travail, c'est même un peu une catastrophe des fois, parce que j'ai du mal à ne pas travailler.
Avez-vous trouvé long le temps des études ?
Alors non. Alors pour ne rien vous cacher, je vais être honnête avec vous, ce que je trouvais un peu long, moi, c'était l'école. Et plus j'ai avancé en âge, plus je me suis intéressée à ce qui se passait dans les études, au lycée, et puis ensuite dans les endroits où j'ai eu la chance d'étudier, et notamment au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai pas du tout trouvé les études longues, même si c'est vrai que pour être anthropologue, il faut faire de longues années d'études. Mais en fait, quand on est étudiant, en général, on s'amuse bien. Et puis on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, donc on s'ennuie pas du tout. Et le temps, il paraît très court.
À quel âge avez-vous commencé à travailler ?
Alors moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans. Après quelques années d'études, j'ai fait un premier métier. Puis au bout de 10 ans de ce métier, je suis retournée faire des études. Donc j'ai commencé ma deuxième vie professionnelle en tant qu'anthropologue. Vers 30 ans, du coup, à peu près.
Quelles sont vos sources d'informations ? Comment faites-vous vos recherches ?
Alors je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je peux vous expliquer un petit peu plus. Mes principales sources d'informations, elles viennent un peu de deux côtés, on va dire. La première d'entre elles, c'est quand je vais à la rencontre des personnes. Je vais recueillir avec un petit enregistreur comme celui-là je vais aller recueillir et enregistrer ce qu'il me raconte. Et puis je vais aussi noter tout ce que j'observe dans des petits cahiers. J'ai plein de petits cahiers comme celui-là, de toutes les couleurs, j'en ai au moins 30. Et donc je note tout dans des petits cahiers. Et puis aussi je vais aller chercher des archives, des vieux documents, des vieilles photographies. Et puis je vais demander aux gens de m'expliquer ce que c'est, de me raconter un petit peu les histoires qui vont avec tous ces documents, toutes ces photos, tous ces objets. Donc c'est comme ça que je collecte l'essentiel de mes informations. Mais l'anthropologie, c'est aussi une discipline scientifique. Et pour être une discipline scientifique, y a une chose qui est partagée par toutes les sciences, c'est qu'on on discute entre scientifiques pour être sûr que ce qu'on fait, c'est costaud, c'est vrai, c'est bien. C'est du bon travail, qu'on n'a pas fait un peu n'importe quoi. Et donc, du coup, il faut lire beaucoup ce que font les autres chercheurs et puis proposer aussi, nous, des textes qu'on demande à nos collègues de vérifier. Et donc ma deuxième source principale, c'est ce qu'ont dit tous mes autres collègues sur les sujets qui m'intéressent.
Est-ce que votre travail est difficile et est-ce qu'il comporte des risques ?
Alors, est-ce que mon travail est difficile ? Je dirais pas qu'il est difficile, mais je dirais qu'il demande beaucoup beaucoup d'énergie et d'attention. Parce que quand vous imaginez, quand par exemple je vais voir un pêcheur, mettons je vais voir un pêcheur dans la baie de Douarnenez, et bien il décide de m'emmener avec lui à la pêche, il est sympa, donc je vais avec lui à la pêche. Mais à ce moment-là, il me faut beaucoup d'énergie et d'attention pour comprendre tout ce qui se passe autour de moi, parce que moi-même, c'est pas mon métier. Donc il y a plein de trucs, je vais pas piger à quoi sert tel outil, pourquoi il fait telle chose à tel moment. Donc il va falloir que je me concentre beaucoup, 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 que je pose des questions, que j'essaye de tout comprendre. Ça, ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, c'est un petit peu difficile. Ça peut être difficile quand on fait une activité dans laquelle on n'est pas à l'aise. Ça peut être aussi difficile quand des gens nous disent des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise non plus. Mais il faut pas qu'on juge ce qu'ils nous disent, donc ça peut être difficile de bien rester à l'écoute, de pas juger les gens. Donc ça, c'est peut-être un petit peu la difficulté de mon travail. Les risques, dans mon travail à moi, il n'y a pas beaucoup de risques, mais certains de mes collègues travaillent dans des contextes qui peuvent être des contextes à risque. Par exemple, des contextes de guerre ou des contextes où il y a des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Et nous, on doit toujours être là auprès des gens et toujours continuer à travailler avec eux. Et donc, le métier d'anthropologue peut comporter des risques, c'est vrai.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes ?
Alors oui, je travaille avec plein d'autres personnes. Alors déjà, je travaille avec les habitants des endroits sur lesquels je fais mes enquêtes. Et sans eux, j'ai envie de dire, rien n'est possible. Donc c'est pratiquement mes principaux partenaires dans mon travail. Je travaille aussi avec des collègues chercheurs comme moi, avec des gens qui m'aident, par exemple, à traduire mes textes dans certaines langues. Je travaille aussi avec des gens qui m'aident à gérer toutes les données, toutes les informations que je récolte. Donc oui, je travaille avec beaucoup de gens qui font plein de métiers différents.
Est-ce que vous travaillez avec une blouse blanche ?
Eh bien, jamais, figure-toi. Jamais je mets une blouse blanche parce que, en fait, je travaille très très peu dans un laboratoire, comme vous pouvez imaginer, le laboratoire avec les éprouvettes et tout ça. Jamais de la vie. Alors, la blouse blanche, je la mets que pour me déguiser. Et pour écrire des trucs dessus si je vais manifester parce que je ne suis pas contente. Mais sinon, j'en porte jamais.
Nous souhaiterons vous poser des questions sur vos recherches qui portent, par exemple, sur les algues vertes. Les algues vertes, à quoi ça sert ?
Alors ça, c'est une très bonne question. On ne me l'a jamais posée et pourtant, Dieu sait qu'on m'en a posé des questions sur les algues vertes. Alors, à quoi ça sert les algues vertes ? La première réponse que j'ai envie de faire, c'est nous, à quoi on sert ? À quoi servent les êtres vivants ? Ils servent à rien et c'est tant mieux, c'est pas un problème. En eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'être utiles pour exister. Donc, on pourrait dire les algues vertes, elles servent à rien, a priori, comme tous les autres êtres vivants. Ils sont là, c'est tout. Mais, si on regarde un peu plus précisément ta question, Brune, je dirais que les algues vertes, ce sont des végétaux qui habitent très près des côtes et elles ont la capacité, elles ont un pouvoir un peu magique, qui est d'absorber beaucoup, beaucoup, mais beaucoup manger ce qui vient des rivières, et notamment tout un tas de molécules qui les nourrissent et à partir desquelles elles peuvent grandir avec la lumière du soleil. Donc, Et ces molécules-là, ce sont des molécules dans lesquelles on va trouver du phosphore et surtout beaucoup d'azote, qui est un élément chimique dont vous savez qu'il est très présent autour de nous et que dans sa forme gazeuse, donc ce qu'on appelle le diazote, il compose à peu près 80% de la composition de l'air sur la Terre. Et de l'azote, on en trouve aussi dans la terre, on en trouve dans les rivières. Et pourquoi on en trouve énormément de l'azote? C'est parce que c'est un fertilisant qui aide les plantes à pousser. Donc on a l'habitude, depuis une centaine d'années, d'en rajouter beaucoup pour que les plantes elles poussent plus vite. Voilà. Et donc les algues vertes, elles absorbent une partie de l'azote qui arrive dans la mer.
Quelles sont les personnes ou les métiers qui sont le plus impactés?
Il y a plusieurs façons d'être impacté. Moi, j'utilise pas toujours ce terme, on va dire concerné par les marées vertes. Il y a plein de professions qui sont et de personnes qui sont concernées. Alors, ceux auxquels on peut penser le plus spontanément, ça va être les gens qui habitent à côté des endroits où il y a beaucoup, beaucoup d'algues vertes et qui peuvent être gênés par les algues vertes. Parce que les algues vertes, quand elles sont fraîches, bah, tout va bien, je dirais. C'est pas trop, trop gênant, même si c'est un peu gênant quand on a envie d'aller se baigner ou se promener sur la plage. Ce qui peut être très embêtant, c'est quand les algues vertes, elles se décomposent. Et là, ça sent pas bon du tout. Et puis, on sait depuis un certain temps que ça peut aussi causer des problèmes de santé. Donc, les gens qui habitent à côté, ils peuvent être très gênés. C'est par exemple le cas beaucoup dans la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Je sais pas si vous connaissez la ville de Saint-Brieuc. Où là, c'est assez difficile de ramasser les algues vertes. Et du coup, des fois, les gens qui habitent autour, ils sont très, très gênés. Après, d'autres personnes qui sont concernées, c'est toutes les personnes qui peuvent être amenées, sans forcément le faire exprès, à utiliser un peu trop d'azote et à faire en sorte qu'il y ait trop d'azote qui va à la rivière puis à la mer et qui du coup favorise la croissance des algues vertes. Et donc la situation qu'on a ici en Bretagne, c'est que l'essentiel de cet azote qui est un peu en excédent, si vous voulez, il vient de l'agriculture. Donc les agriculteurs, ils sont très concernés par ce sujet-là et ils sont souvent mis en cause et critiqués pour leur pratique du fait qu'ils utilisent beaucoup d'engrais avec de l'azote dedans. Voilà. Mais il y a aussi plein d'autres professions qui peuvent être touchées. Par exemple, les pêcheurs qui travaillent à la côte, les pêcheurs, donc là en baie Tournenay à côté d'ici, il y a par exemple des gens qui pêchent la téline, qui est un petit coquillage qui est enfoui dans le sable. Ces petits coquillages, quand il faut aller les pêcher et qu'il y a plein d'algues vertes, c'est difficile. Donc voilà, il y a plein de professions qui peuvent être touchées par les algues vertes.
Est-ce que les algues vertes impactent les humains et comment ?
Alors oui, là on a effectivement parlé des impacts qui peuvent être un peu immédiats, c'est-à-dire on peut être gêné quand on est un utilisateur des plages où il y a des algues vertes, on peut être gêné quand on est pêcheur, on peut être gêné. Mais il y a aussi un impact peut-être qui est moins immédiat mais qui est aussi très fort, c'est que ça peut inquiéter les gens aussi de savoir qu'il y a ces proliférations, c'est comme ça qu'on les appelle, d'algues vertes, ces marées vertes sur le littoral, parce que ça veut dire aussi que notre environnement n'est pas toujours en très bonne santé. Et que s'il n'est pas toujours en très bonne santé, c'est parce que les activités humaines, elles ont des effets sur lui. Donc ça peut inquiéter aussi du monde d'avoir peur d'être intoxiqué ou d'avoir peur que la nature s'abîme.
Est-ce que ça comporte des risques pour la nature ?
Oui, alors, ça comporte des risques pour la nature. Quand il y en a beaucoup, beaucoup, alors souvent nous on voit les algues vertes qu'il y a sur la plage, mais il faut imaginer que les algues vertes qu'on voit sur la plage, c'est qu'une petite partie des algues vertes qui sont présentes dans le milieu, puisque il y a la plus grande partie, elles restent dans l'eau. Et dans l'eau, s'il y en a beaucoup, beaucoup, et qu'elles finissent par mourir et se décomposer, le risque, c'est qu'en fait, elles absorbent tout l'oxygène qui est dans l'eau, ou alors elles se déposent sur le sol, et elles empêchent toute la petite faune qui est dans le sol. Donc ça peut être des invertébrés, ça peut être des coquillages, ça peut être aussi du plancton, des larves de poissons, des larves de crabes, etc., qui peuvent ne pas avoir assez d'oxygène pour se développer. Et donc ça, c'est quand il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être pareil sur la plage. S'il y a beaucoup d'algues vertes qui ne sont pas enlevées et qui bouchent l'accès, si vous voulez, à l'atmosphère, ça peut empêcher les organismes vivants de respirer, donc oui, il peut y avoir des impacts sur la nature qui peuvent être significatifs. Après, ça reste un être vivant comme les autres, et en fait, là où il y a des risques, c'est quand il y en a trop, c'est pas les algues vertes en elles-mêmes.
Comment les agriculteurs agriculteurs réagissent aux problèmes des algues vertes?
Alors, bon, ça, c'est une question très, très difficile. Déjà, les agriculteurs, ils ne réagissent pas tous pareil. Donc ça, avec les enquêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'en rend vite compte. C'est-à-dire que les agriculteurs, ce n'est pas un groupe de gens qui pensent tous pareil, qui agissent tous pareil, qui réagissent tous pareil. Et donc, parmi les agriculteurs, y en a qui ont différents types de production agricole. Il y en a qui sont éleveurs, il y en a qui sont légumiers, il y en a qui pratiquent ce qu'on appelle la polyculture, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la polyculture élevage, donc des animaux différents sur la ferme, des cultures différentes sur la ferme, donc ils ne vont pas être touchés de la même façon ni réagir de la même façon. Il y en a aussi qui sont très très concernés par les inquiétudes à propos de l'état de la nature dont on a parlé à l'instant, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement. Et donc, ils essayent de lutter contre les marées vertes. Il y en a d'autres qui se sentent un peu plus loin de ça, soit parce qu'ils habitent loin de la mer, soit parce que dans leur système de production, c'est plus difficile pour eux de changer les choses. Alors ça, c'est peut-être la première réponse que je ferais. Puis la deuxième, c'est qu'il y a quelque chose qui les touche beaucoup, tous autant qu'ils sont, c'est les critiques dont l'agriculture fait l'objet. Et ça, ils réagissent souvent très mal à ça. Ils ont l'impression que c'est pas très juste parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait évoluer déjà beaucoup de choses. Et donc parfois, ils réagissent pas très bien aux critiques qu'on formule en leur direction.
Est-ce que vous avez une idée pour que les algues vertes disparaissent?
Alors des idées, comme tout le monde, je pense que j'en ai un petit peu, mais j'ai pas de baguette magique. Et ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est que du fait des mécanismes qui sont en cause quand on parle des marées vertes ou des algues vertes, on sait que ça prend du temps de voir les algues vertes disparaître, parce que c'est pas du jour au lendemain on coupe le robinet puis hop ça disparaît. Il faut du temps. Donc ça, c'est la première chose, la première idée que j'ai, c'est d'apprendre à vivre avec, de bien s'informer, de bien comprendre ce que ça implique que de vouloir que les marées vertes disparaissent. Et pour qu'elles disparaissent, c'est assez simple. Il faut essayer de cultiver la terre dans des conditions où il y a le moins possible d'excédent d'azote qui part dans les rivières et à la mer. Ça, c'est la meilleure option qu'on a. Donc après, une fois qu'on l'a dit, c'est un peu facile à dire. Moi, je ne suis pas agricultrice. En tant que personne qui n'est pas agricultrice, ce qu'on peut faire, c'est faire attention à ce qu'on mange, à notre alimentation, à ce qu'on achète aussi. Faire attention aussi à comment nos maisons elles sont bien organisées pour que les eaux chargées en nutriments que nous aussi humains on a tendance à relâcher, que ça aille pas directement dans la rivière et dans la mer. Donc on peut faire des petites choses comme ça, et on peut aussi surtout être solidaire avec les agriculteurs pour les aider à changer ces pratiques là.
Nous avons encore quelques questions sur votre métier. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans votre domaine?
Oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans mon domaine. Par le passé, c'était pas tellement le cas. Jusqu'à une période assez récente, les femmes, elles travaillaient dans la science, mais elles n'étaient pas souvent reconnues comme chercheurs à part entière. Donc souvent, elles faisaient un peu les petites mains dans les laboratoires. Maintenant, les choses ont changé. On commence à avoir une répartition équilibrée entre hommes et femmes dans les laboratoires de recherche. Donc oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans mon métier.
Est-ce que c'est un désavantage d'être une femme pour travailler dans le domaine des sciences aujourd'hui?
Alors, je dirais pas que c'est un désavantage d'être une femme, mais c'est vrai que la situation n'est pas complètement égale entre les femmes et les hommes. Parfois, ça peut être un avantage d'être une femme, parce qu'il y a certaines personnes avec qui c'est plus facile de parler quand on est une femme. Parfois, c'est plus difficile quand on doit évoluer dans des univers très masculins, dans des métiers très masculins. C'est pas forcément très très évident. Il y a encore des métiers qui sont très masculins, comme la pêche, même l'agriculture dans une certaine mesure. C'est des métiers où il y a plus d'hommes. Et où quand on est une femme, on nous regarde un petit peu de côté là tout de suite. Donc c'est plus difficile de se faire reconnaître et de s'intégrer. Mais je dirais pas que c'est un désavantage en soi d'être une femme dans le métier, mais comme toutes les femmes dans tous les métiers, on a quand même des contraintes qui sont plus liées au fait qu'on a souvent aussi des choses à s'occuper au niveau de la famille et tout ça, qui font que par exemple moi, je peux pas décider du jour au lendemain de partir 6 mois dans une contrée éloignée. Il faut que je prenne en compte le fait que j'ai une famille avec moi et tout ça. Donc ça demande à s'organiser beaucoup. Et parfois, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais ça, c'est un petit peu normal, quoi.
Merci à notre invité, Alix Levin. Merci à tous les auditeurs. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.
Merci à vous, les enfants.
Au revoir.
Au revoir.
Nous étions avec Alix Levin, anthropologue à l'Institut universitaire européen de la mer à Plouzané, interviewée par les élèves de l'école Cornec à Quimer. Et parmi eux, il y avait Eva, Alexia, Ilan et Brune. Prochaine interview au mois de décembre, les élèves rencontreront une photographe animalière.
L'EM, l'émission, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Demandez où ça la sert. Demandez-moi.